Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au programme des questions d'époque aujourd'hui, la suite dans les idées. Bonjour Sylvain Bourmeau.
Bonjour Caroline Brouet.
Au sommaire de la suite dans les idées, en fin d'émission, on retrouvera Cyril Lemieux pour sa chronique. Mercredi dernier, le Sénat roumain a voté à l'unanimité une loi qui impose aux télévisions et aux radios du pays de diffuser 50% au moins d'informations positives parce que les sénateurs estiment que trop de mauvaises nouvelles peuvent nuire à la santé de leurs concitoyens. Et bien Cyril viendra démontrer, étude de sociologie à l'appui, que les sénateurs roumains ont tort. Le dossier de la suite dans les idées sera consacré, Sylvain, à la figure de Marcel Mauss.
Oui, 15 jours après une émission consacrée à Durkheim, rien de plus logique que de consacrer une émission à Marcel Mauss. L'actualité nous en est donnée avec un livre de Sylvain Dzimira dont nous allons parler aujourd'hui.
Mais pour commencer l'émission, actualité éditoriale, Sylvain, puisque vous recevez le sociologue Christian Baudelot.
Oui, on va voir qu'il y aura quelques résonances avec le débat de tout à l'heure. Bonjour Christian Baudelot.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie, vous avez longtemps enseigné à l'Université de Nantes et puis à l'École normale supérieure notamment. On vous doit de nombreux livres dans une tradition durkheimienne aussi, notamment sur le suicide, mais aussi beaucoup sur l'école. Et là, vous avez coécrit avec Olga Baudelot, votre femme, un livre que vous avez écrit, je dirais, en alternant les chapitres. Je le rappelais, vous êtes sociologue, votre femme, elle, est psychologue, elle travaille sur la petite enfance notamment. Et vous avez écrit un livre, au fond, le genre de livre dont on ne parle pas habituellement à la suite dans les idées, mais j'ai du mal de toute façon à classer ce livre. C'est un récit personnel, mais personnel à deux, d'une aventure très singulière. Ce titre, c'est Une promenade de santé. Il paraît aux éditions Stock. Et dans ce livre, Christian et Olga Baudelot, vous racontez en fait une greffe de rein. Vous avez, Christian Baudelot, donné. On va parler de dons aujourd'hui beaucoup dans cette émission. Vous avez donné l'un de vos reins à votre femme, Olga Baudelot, et c'est cette aventure à deux que vous racontez. Alors évidemment, je le disais, une psychologue, un sociologue, quand ils décident de s'associer pour faire ce récit, ils le font aussi en psychologue et en sociologue, et donc ces deux dimensions sont présentes, et notamment la référence à Marcel Mauss, qui m'a donné l'idée de vous inviter aujourd'hui précisément. J'avais envie qu'on parle de votre livre à la suite dans les idées, mais je trouve que ça tombe particulièrement bien. Comment, très très simplement, comment vous avez pris la décision d'écrire ce livre qui ne ressemble absolument pas à ceux que vous avez publiés précédemment ?
Bah, c'était une nécessité parce qu'on a senti, ma femme et moi, qu'on était engagés dans une aventure absolument extraordinaire et on a commencé à prendre des notes. Et puis on se disait que c'était quand même assez intéressant de mettre cette aventure sur la place publique parce que la greffe avec donneur vivant est très peu connue en France, peu pratiquée. Hein, sur 100 greffes rénales, il y a 10 seulement par donneur vivant, et très mal connue. Et nous-mêmes, nous l'avons appris au dernier moment, alors que ma femme était dans un stade terminal, enfin, je veux dire, de fonction rénale. Et donc, comme vous le dites, on n'a pas pu s'empêcher aussi de réfléchir quoi, à ce qu'on faisait. Et ça a été l'objet un peu de ce livre, d'essayer de prendre de la distance et de comprendre. Et moi, j'ai toujours été frappé par le fait que la question du don est absolument centrale. Le mot don, dit don d'organes, etc., dans toutes ces histoires de transplantation. Et quand je passais des examens, quand j'en parlais à des amis, et je disais que je vais donner un rein, enfin, je passe des examens pour essayer d'être habilité à donner un rein à mon épouse, tout le monde me disait bravo, quel acte de générosité extraordinaire, c'est un don formidable, etc. Et ça ne correspondait absolument pas à l'expérience que j'en avais. C'est-à-dire que ça me semblait être une solution, une thérapie de salut, c'est-à-dire qui allait complètement détourner le cours du destin qui nous attendait, c'est-à-dire la dialyse, avec toutes ses servitudes pour la patiente, mais aussi pour son entourage. Et dans ce cas-là, si vous voulez, j'ai pensé que c'était égoïste. C'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles je n'ai absolument pas réfléchi dès que j'ai connu cette possibilité, c'est que ça m'arrangeait beaucoup. C'est-à-dire que je pouvais à ce moment-là revivre et continuer à vivre avec ma femme une vie comme nous l'avions vécue tant qu'elle n'était pas malade. Et donc il y avait un côté égoïste. Et si on réfléchit bien, si vous voulez, à la question du don et de savoir comment le don rend compte ou non de cette affaire de don d'organes, enfin, c'est en essayant d'appliquer Marcel Mauss à cette réalité, de deux choses l'une. Ou bien l'organe est prélevé sur un mort. Bon, dans ce cas-là, Philippe Stenner, qui a là une formule remarquable, il a dit le donneur est donné. C'est-à-dire que, je veux dire, d'abord la loi Caillavet, qui a été reprise dans la loi de bioéthique de 1994, stipule que le corps d'un mort n'appartient pas à la famille, mais à l'État. Bon, et donc, ces organes sont à la disposition de l'État. Alors, les médecins sont très courtois, ils demandent l'avis de la famille, ils s'y plient, c'est-à-dire que quand il y a un refus de la part de la famille de donner, enfin, je veux dire, de prélever un organe, ils s'y plient, enfin, ils ne font pas le prélèvement. Mais là, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il y a véritablement un don. C'est-à-dire que le donneur est donné. C'est la loi, et on a beaucoup plus affaire là à un cas de redistribution, comme l'impôt, c'est-à-dire que les organes, enfin, c'est extrêmement, la loi est extrêmement stricte, il y a des listes d'attente, le choix sur la liste d'attente, quand un organe est libre, se fait par ordinateur, c'est donc une instance extérieure qui décide que tel organe ira à tel receveur, en fonction, si vous voulez, de critères qui sont à la fois, je veux dire, d'ancienneté sur la liste d'attente, de proximité tissulaire, etc. Bon. Donc là, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un don, mais plutôt de quelque chose qui ressemble à la redistribution d'impôts. C'est l'État, et l'État, à ce moment-là, concentre les organes et les redistribue à ceux qui en ont besoin en fonction de la législation. Et dans le cas donneur vivant, ce qui était mon cas, le don, si vous voulez, ne s'applique pas vraiment dans la mesure... Enfin, nous, on a dit que c'était plutôt une mutualisation. C'est-à-dire que la loi actuelle, en France... restreint le périmètre donneur de receveur, enfin, c'est-à-dire on a le droit de donner l'un de ses organes, surtout les reins, uniquement à des membres de sa famille. Alors, c'est-à-dire à ses parents, les parents à leurs enfants, le frère à la sœur à la frère, les tantes éventuellement, et oncle et conjoint. Et le conjoint, c'est tout récent, c'est 2004. Bon, et donc nous, on a profité de cette possibilité-là, et si vous voulez, je n'avais pas vraiment, je vous disais tout à l'heure que c'était égoïste, mais c'est plutôt le sens d'une mutualisation, c'est-à-dire que ma femme et moi, on vit ensemble depuis très longtemps, on s'aime beaucoup, et on a toujours mis tout en commun, aussi bien les comptes chèques, la voiture, l'appartement, etc. On n'a pas de comptes séparés, etc. Bon, et donc là, c'était une façon, si vous voulez, j'avais un organe qui ne servait à rien puisqu'il était en double, je le verse au pot, il en avait besoin, etc. Et c'est donc beaucoup plus, si vous voulez, l'histoire d'une mutualisation. Et donc, en tous les cas, dans ce premier temps, je pensais que la question du don était vraiment une mauvaise façon...
Formulation.
Formulation. Oui. Alors, elle se comprend. Parce que l'obsession des législateurs, de tous les organes de bioéthique, etc., c'est de lutter contre le trafic, hein, c'est-à-dire contre la monétisation, etc. Et donc, à ce moment-là, ils sont obligés, de couvrir, de magnifier le caractère désintéressé du don pour le rendre acceptable et surtout l'opposer fondamentalement à son envers, qui est le trafic.
Alors, du coup, quand vous dites à un moment que vous êtes confronté de façon très pratique à cette situation qui semble pas coller avec l'enseignement de Mauss que vous avez pendant des années professé à vos élèves, et comment on fait quand on est dans cette situation dans une attitude réflexive par rapport à ce qui est en train de vous arriver à vous-même, et en même temps avec dans quelle mesure ces textes, ces réflexions antérieures sont des ressources pour...
Oui, à la fois c'est des ressources et en même temps on oublie tout. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai enseigné, et avec un plaisir énorme, laissé sur le don à des générations d'étudiants à Lille, à Nantes, à Paris, etc. Et j'avais complètement oublié une chose que j'avais vraiment enseignée, c'était qu'il est beaucoup plus facile de donner que de recevoir. Bon. Et si bien que quand j'ai pris ma décision de donner ce qui s'est fait en un instant, c'est-à-dire que j'ai absolument pas réfléchi, dès que j'ai su cette possibilité, j'ai bondi dessus, et j'étais plein d'enthousiasme, je trépignais de joie à l'idée qu'on allait pouvoir en sortir. Ma femme a été très réticente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout accepté. Et elle a mis très longtemps, elle a mis 2 mois à se faire à l'idée et à accepter. Et là, on a eu purement et simplement, j'ai compris progressivement que ben, moi, ça avait raison. C'est-à-dire, mais là, je l'ai complètement oublié.
Alors, je disais tout à l'heure, ce livre ne ressemble pas à ceux que vous avez écrits précédemment. Vous avez choisi le parti d'un récit très, très simple, au fond, très factuel. Évidemment, vous parlez du ressenti, des différents moments, de la façon dont les choses évoluent. Mais moi, j'ai le sentiment d'un souci avant tout pédagogique. Vous disiez tout à l'heure, on connaît très mal cette question du don d'organes à partir de personnes vivantes. Et donc, on sent, est-ce que c'était ça le sens de votre démarche, d'essayer d'expliquer, de faire en sorte qu'on en parle mieux et davantage?
Oui, alors il y a cette dimension-là, hein, côté pédagogique, mettre les choses sur la place publique, informer, puisque les gens sont très mal informés de cette situation-là. Il y avait aussi un souci, si vous voulez, d'analyse, d'accompagner un peu notre aventure par une analyse. Et puis, il y avait un côté aussi, c'est beau, je veux dire, comme histoire. Enfin, je veux dire, ça ne vous laisse pas indifférent. C'est-à-dire, c'est une expérience extraordinairement forte. Et elle a marché. Et donc, on est assez content aussi, après, d'en faire part, je veux dire, aux gens, de dire que c'est quelque chose qui réussit et que ça transforme complètement aussi les gens, puisque on détourne au dernier moment un peu le cours du destin en rendant une vie, en restaurant une vie normale, quoi.
Ça veut dire que ce livre, vous l'avez d'abord écrit pour vous sans nécessairement imaginer de le publier, ou c'était simplement des notes dans un premier temps?
Non, au début, on a pris des notes. Et puis, on s'est dit quand même, c'est intéressant. Je veux dire, ça vaut le coup. Il n'y a pas de choses là-dessus. On n'a rien lu. Et que nous, on a été obligés de grappiller l'information à mesure sur Internet, dans les différents sites, etc. Et il n'y avait pas de données d'ensemble. Donc, on s'est dit, c'est quand même assez important.
Même une chose incroyable, c'est-à-dire que c'est presque au dernier moment. Enfin, pas au dernier moment, mais vous apprenez tardivement qu'il n'y a pas de problème de compatibilité, contrairement à ce que vous entendez dire, y compris pris par des médecins d'ailleurs, et donc là il y a un problème de circulation de l'information.
Oui, alors il y a, à la décharge des médecins, on peut dire aussi que l'évolution, enfin si vous voulez, de la médecine et de cette médecine de pointe est tellement rapide que très peu, s'ils ne sont pas vraiment dans la partie, peuvent être au courant de tout. Et en particulier, pendant très longtemps, si vous voulez, on pensait que les problèmes de compatibilité étaient fondamentaux, c'est-à-dire qu'à la limite, il n'y avait que des jumeaux homozygotes avec lesquels on pouvait greffer. Et puis, ils sont aperçus, au bout d'un moment, que le rejet était la loi. Bon. Et donc, tout corps étranger introduit dans le corps d'un autre ne demandait qu'à s'en aller le plus vite possible, enfin, en prenant son temps aussi. Et donc, ils ont à ce moment-là compris qu'il fallait lutter contre le rejet, baisser les défenses. Et maintenant, si vous voulez, depuis que ça nous est arrivé, ça a encore évolué. C'est-à-dire qu'avant, en 2007, le problème du groupe sanguin était fondamental. L'appareillement entre les deux groupes sanguins. Et maintenant, ils sont en train de faire des greffes sans compatibilité avec le groupe sanguin.
Alors, dans les mêmes semaines où votre livre a paru, donc Une promenade de santé aux éditions Stock, livre de Christian et Olga Baudelot, est sorti sur les écrans le film d'Arnaud Desplechin, Un conte de Noël, où au cœur de ce film, au cœur de ce récit, au cœur de cette famille, il y a à nouveau une greffe. Vous l'avez vu,
Christian? Absolument, Baudelot. Je l'ai vu et j'ai vraiment vibré à voir ce film parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. Alors c'est une greffe assez particulière, c'est une greffe de moelle osseuse, où là, les conditions nécessaires, si vous voulez, de compatibilité sont extrêmement strictes. Bon. Et que d'autre part, les risques, à la fois pour le donneur, enfin surtout pour le receveur et le donneur aussi, sont très très forts. Bon. Et donc, la famille étudiée par Desplechin est assez particulière, enfin, je veux dire, les conflits énormes, etc. Et néanmoins, moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est qu'on voit tous les enjeux de pouvoir, les relations que peuvent avoir. Alors, le père, il y en a qu'un qui est compatible, c'est le fils. Et le fils est haï par sa mère et il hait sa mère. Bon, et la sœur, qui est au contraire bien vue, etc., elle n'est pas compatible. Bon, et donc là, il y a une analyse psychologique extraordinairement fine du pouvoir que peut acquérir, justement, là on revient à Mauss, le donneur dans le cadre familial et auprès des autres. Et je trouve que c'est admirablement vu.
Mais je sais, pour en avoir parlé avec lui, que Desplechin a lu et relu Marcel Mauss pour préparer son film, bien évidemment. Merci Christian Baudelot. Vous restez avec nous pour parler, vous l'avez compris, de Marcel Mauss dans le dossier de la suite dans les idées aujourd'hui. Quinze jours après l'oncle Émile Durkheim, le neveu, donc aujourd'hui Marcel Mauss, au programme de la suite dans les idées. On parlait de Durkheim il y a 15 jours avec Marcel Fournier qui vient de publier une biographie de Durkheim. Là, il préface un livre dont nous allons parler aujourd'hui, Marcel Mauss, savant et politique, de Sylvain Dzimira, qui paraît aux éditions La Découverte. Pour en parler avec l'auteur qui est chercheur associé au Sophia Paul, un laboratoire de l'université Paris 10 Nanterre. Philippe Chagnal qui enseigne et maître de conférence à Paris Dauphine, qui est aussi le secrétaire général du Mauss, à ne pas confondre avec Marcel Mauss, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. Enfin, il y a un rapport.
À ne pas confondre, faut voir.
Voilà, on va expliciter la relation entre Marcel Mauss et ce mouvement anti-utilitariste, le Mauss, qui publie régulièrement, deux fois par an, une revue, la revue du Mauss. Également autour de la table, Philippe Stenner, qui est professeur de sociologie à l'université Paris 4, et qui, entre autres sujets, objet d'études, de travail sur le don d'organes. Je crois qu'il prépare un livre sur la question. Et puis Christian Baudelot qui reste avec nous autour de la table. Alors, Sylvain Dzimira, ce livre « Savant et politique », on comprend évidemment tout de suite le clin d'œil au livre célèbre, aux deux conférences réunies sous forme de livre de Max Weber. Vous le dites pas tout à fait dans ces mots-là, mais si je vous ai bien lu au début, au fond, que Marcel Mauss propose, pour penser la relation entre la science d'un côté, la politique de l'autre, une troisième voie à celle proposée par Weber et par Durkheim. C'est-à-dire, on pourrait dire au fond, Weber dit d'un côté la science, de l'autre la politique. Durkheim, lui, ce serait plutôt d'abord la science, puis la politique. Et puis, pour Mauss, ce serait la science et la politique ensemble, en même temps.
Voilà, oui, tout à fait. Donc, c'est une position épistémologique particulière, donc souvent condamnée, en fait. Hein, ceux qui la soutiennent ne sont pas les bienvenus dans la communauté des sociologues en général. Mais avant de parler de mon ouvrage, moi, j'aimerais revenir sur les propos de M. Baudelot, parce qu'en fait, on peut y fixer donc, les grands traits d'un débat théorique important sur le don, en fait. Donc, j'étais très touché par votre histoire, mais je voudrais d'abord me focaliser sur la dimension théorique de votre conception du don. Alors, vous avez dit, en fait, lors...